podcast de Radio Vatican.
C'est à Rome que les membres de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe sont venus fêter le 20e anniversaire de l'organisation. Un choix symbolique pour, pendant 3 jours, se ressourcer et trouver une inspiration pour les années à venir. Point d'orgue de cette célébration, l'audience privée avec le pape François, prévue jeudi prochain, la Journée internationale des parents. Fondée en 1997, la Fédération représente aujourd'hui des associations familiales catholiques de 14 pays européens. Sa mission est de promouvoir la famille en Europe à travers une action basée sur l'enseignement social de l'Église. Nous en parlons avec Maria Hildingsson, secrétaire générale de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe.
Nous voyons aujourd'hui des débats autour des notions et des définitions surtout du mariage et de la famille en Europe qui montrent l'importance pour les familles d'avoir conscience à la fois de leur rôle politique, à savoir le droit d'aller voter, de peser sur les décisions, et aussi du droit des familles d'exister et de progresser en tant que famille. Que la famille est vraiment un sujet de droit et non pas un objet qui doit être administré. Et donc, il y a sans doute encore du chemin à faire pour que cette conscience soit développée dans les familles. Mais cela peut se faire justement avec l'aide d'associations qui portent ce message en public et aussi des encouragements venant de la part de l'Église pour encourager les familles à jouer le rôle qui est le leur et répondre à Jean-Paul II qui disait « Famille, devenez ce que vous êtes ».
Des familles acteurs économiques mais également des familles artisans de paix. C'est en quelque sorte votre credo. Cette question n'a pas été véritablement comprise, appréhendée par les décideurs politiques en Europe.
Alors, si l'on regarde les messages qui ont été donnés par les papes successivement, à commencer par Saint Jean-Paul II, et ensuite Benoît XVI et maintenant le pape François, pour la Journée internationale de la paix, on voit que la famille est un sujet récurrent dans ces messages. Et donc, on voit que la famille est vraiment le lieu où la paix peut se construire. On peut voir cela dans des pays qui ont connu la guerre récemment, si l'on regarde en Europe, dans les Balkans, par exemple, et l'engagement qu'il y a aujourd'hui dans ces pays-là pour la famille, qui est très, très fort. Donc, l'enjeu est très grand. Mais au niveau politique, je pense qu'il y a encore un pas à faire pour intégrer cela dans une réflexion politique. Bien souvent, et pendant très longtemps, on a considéré que la famille, c'était quelque chose qui coulait presque de source, qui allait de soi. Donc on reconnaît dans des textes comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et également dans la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe que la famille est la cellule de base et qu'à ce titre, elle a droit à un soutien de la part de l'État et de la société pour pouvoir remplir son rôle. Mais en réalité, on voit qu'on est resté un peu sur ces principes sans les avoir développés. Donc il y a encore un chantier immense, sans oublier aussi, bien entendu, que les défis auxquels sont confrontées les familles évoluent aussi avec le temps. Donc il est important de prendre en compte les besoins qui sont ceux des familles d'aujourd'hui.
Quelles sont les principales résistances à la mise en place de politiques familiales ?
Nous sommes sans doute dans une forme d'impasse aujourd'hui, où je constate, étant basée à Bruxelles depuis 2009, donc j'observe ces évolutions, qu'il y a une crispation autour de la définition du mariage et de la famille. Alors il faut rappeler que l'Union européenne n'a pas de compétence en matière de définition du mariage et de la famille. Cela est bien une compétence nationale. Cependant, on voit plusieurs pays dans l'Europe de l'Est, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie et maintenant la Roumanie, qui ont eu des énormes mobilisations populaires pour demander des référendums, pour inscrire dans leur constitution que le mariage est l'union entre un homme et une femme. Pourquoi ces États font cela? C'est parce qu'il y a des pressions qui pèsent sur ces États, notamment venant de Bruxelles. Et donc tout cela, ça conduit aujourd'hui à une certaine impasse où il est très difficile d'avoir un débat posé sur le mariage, sur la famille, dans l'espace public, sans entrer tout de suite dans cette question de la définition. Et c'est un débat qui est devenu très, très tendu dans le cadre politique.
La famille aujourd'hui a différents visages. Comment s'articule votre travail en tenant compte de ces diversités et de cette évolution ?
Alors, nous n'ignorons en effet pas la réalité des enfants, des femmes, d'hommes d'aujourd'hui. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir Donc, trouver des conditions qui sont favorables aux familles, à savoir que les familles ont besoin de passer du temps ensemble. Elles ont besoin d'avoir un revenu qui leur permette de vivre dignement de leur travail. Et elles ont besoin aussi d'avoir des services qui sont adaptés à leurs besoins. Donc c'est vraiment de la politique familiale qui est nécessaire et qui aussi va se décliner à tous les échelons politiques, local, régional, national, européen, etc. Donc dans ce contexte, nous cherchons toujours à proposer des solutions qui sont positives pour créer les conditions cadres pour que les familles puissent vivre paisiblement, qu'elles puissent vraiment jouer le rôle qui est le leur, mais aussi qui soient des politiques qui soutiennent et qui encouragent les familles, pour que les familles se sentent reconnues pour ce qu'elles apportent à la société. Et lorsqu'il y a des situations difficiles, lorsqu'il y a des situations de tension, peut-être de séparation, etc., s'assurer qu'il y ait un soutien autour pour soigner la famille aussi.
Vous bénéficiez d'un statut participatif auprès du Conseil de l'Europe. Avez-vous véritablement le sentiment de peser sur les décisions politiques ?
Nous sommes actifs pour faire des propositions. Et récemment, nous avons pu voir des fruits de ce travail où une proposition qui visait à libéraliser ou, à vrai dire, permettre le recours à la gestation pour autrui, a pu être arrêtée. Donc, il est possible, effectivement, d'influencer. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en un coup de main. Et cela repose à la fois sur du professionnalisme, sur des analyses, des recommandations qui sont faites, et aussi sur un certain travail relationnel, où il s'agit d'établir des contacts de confiance avec ceux qui sont élus.
Des propos recueillis par Hélène Destombes.